Ici, vous pouvez tout dire, tout, même le pire. Et je vais vous dire, vous aurez beau me dire, on peut plus rien dire ou même le penser. Pour que vous me le disiez, il aura fallu que vous l'ayez dit. Donc, vous êtes la preuve vivante qu'on ne peut pas ne plus rien dire. En fait, ce qui m'amuse dans cette phrase figée, ce cliché du « on ne peut plus rien dire », c'est qu'il repose sur un mélange de passéisme, de plainte et de parano, poussé à un point où celui ou celle qui la prononce ne voit même plus l'absurdité de sa propre pensée. Franchement, dire que dans le passé, on était moins censuré, c'est faire preuve au mieux d'une grave méconnaissance de l'histoire de France, au pire, d'une épouvantable mauvaise foi. Donc dire qu'on ne peut plus parler librement, en chouinant souvent, c'est la définition de la victimisation, du ouin-ouin, des larmes de crocodile, ce qui est précisément ce que vous reprochez à ceux qui seraient en train de vous censurer, la plainte. Et enfin, dire qu'il y aurait une sorte de complot, c'est dire un peu n'importe quoi, parce que force est de constater que ceux qui disent qu'on ne peut plus rien dire sont très souvent invités à le dire, et plus souvent qu'à leur tour. Le complot ressemble beaucoup à de la parano. Et je vous rassure, si vous dites n'importe quoi, ou si ce que vous dites tombe sous le coup de la loi, on vous le dira. Pour autant, vous pouvez tout dire, même le pire.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous.
Cela dit.
Attendez, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'a pas l'air d'avoir de tabou. Sa parole libre, son vibrato enchante la chanson française depuis plus de 50 ans. C'est au théâtre qu'on la retrouve avec la pièce Hard, dans une mise en scène de Nicolas Briançon. Elle y joue une septuagénaire libre comme l'air, très à l'aise dans le porno. Bonjour Nicole Croisille.
Bonjour Augustin Trapenard et non pas Traquenard,
tout
comme
à
on
fait.
M'a dit.
Ah non, qui vous a dit ça?
Ouais, mais les copains d'hier soir, parce qu'ils savaient que j'allais être obligé.
Ils sont super.
Je me levais tôt.
D'accord.
Obligé de me lever tôt. Nicolas m'a fait, dis donc. C'est un traquenard ou quoi?
C'est pas le premier.
Hein, oui, non. Oui, c'est usé maintenant, ça.
Rassurez-moi, on peut tous dire, tous les deux.
Ah, nous, oui.
Tout. Pas de tabou. Aucun tabou.
Non, j'en ai de moins en moins. Enfin, pour me dégager des tabous qu'on m'avait infligés dans mon enfance, parce que 4 fois 20, ça fait quand même remonter. À la fin de la guerre, de la deuxième guerre. Donc, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, je suis entourée de trentenaires et de quadras parce que je me sens à l'aise complètement, quoi.
Aucun mot interdit, vous dites tout.
Il y en avait un qui était encore interdit. C'était PD. Puis maintenant, tout le monde le dit, ou presque.
Bon,
mais ça n'est plus une insulte.
On peut le dire quand on l'est, en tout cas. Moi, je le dis plus souvent qu'à mon
peut-être.
Tour.
Alors, c'est peut-être parce que je suis entourée, justement.
C'est particulièrement ce matin. C'est vrai que lorsqu'on vous voit dans Hard, Nicole Croisille, où vous adoptez un langage plutôt cru, on se dit que vous n'avez effectivement peur de rien. Il y a quelque chose de libérateur, de jouissif aussi dans le fait de prononcer certains mots, j'ai l'impression, pour vous.
Mais Gassio qui est le réauteur, puisqu'en fait c'est une série de Canal+, puisqu'on a reconstruit une seule pièce avec éventuellement toute l'histoire qui avait été déroulée dans leur, que je n'ai jamais vue, et donc c'est valait mieux comme ça. J'étais innocente par rapport à la chose, et il a mis dans ma bouche et dans la bouche de Stéphane Wojtowicz des phrases qui font mouche,
oui, et qu'on ne répétera pas ici parce qu'elles sont un petit peu
Je ne sais pas, moi, qui est-ce que les enfants écoutent à cette heure-là?
Non, pas du tout, certainement pas. Et pas
ils
du tout le mercredi,
là.
Nicole. Les enfants sont à l'école le mercredi. Mais ça vous amuse de transgresser certains interdits?
Oui, c'est amusant de transgresser. Quand j'ai commencé dans les monologues du vagin en 2004, j'ai découvert que finalement, ça faisait pas mal ni à la bouche, ni à la tête, ni au cœur de dire des choses, paraît-il, imprononçable pour une femme de bon aloi.
En tout cas, ça fait marrer les autres, non?
Et ça, c'est sûr.
Quand vous avez fait les premières lectures de Hard, comment
alors,
ça s'est passé?
Alors, la première lecture, je l'ai faite dans une innocence totale. Et c'est Nicolas Briançon, qui est donc le metteur en scène de l'aventure, avec qui j'ai travaillé pour Irma la Douce. Dans Irma la Douce, on était dans l'argot de ma jeunesse, à moi. Et comme maintenant, je suis partout la plus âgée, c'est parfait. Maintenant, je deviens vraiment le dinosaure de service. Et donc, c'est lui qui m'a demandé de venir faire la lecture. Il me dit, est-ce que tu me ferais une lecture? Je dis, bien sûr, moi je fais toutes les lectures qu'on veut, moi j'adore ça. Et j'ai quand même eu un prix de littérature quand j'étais à l'école.
Ah oui, c'est ça.
En première.
Ouais.
Quand même. Bon, alors depuis, je lis plus, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup lu à cet âge-là. Et donc, j'ai lu, et moi, je me suis dit, ok, Hard, d'accord, c'est sur le porno, ça va être Gassio, c'est une signature à tous les coups.
Bruno
Gassio. Et donc, j'ai lu comme si c'était tout à fait quotidien. Et je me suis même pas rendu compte que les acteurs, les trois mâles de la pièce sont ceux qui ont fait la série. Donc pour eux, c'est devenu le langage normal, en fait. Et il paraît qu'ils étaient morts de rire.
Et j'ai l'impression, Nicole, dites-moi si je me trompe, il n'y a pas que sur scène que vous êtes dans la transgression, que vous défiez les codes de bonne conduite. Aux États-Unis, il y a 60 ans, vous étiez en tournée, on était encore en pleine ségrégation, et il n'était pas bien vu pour une blanche de marcher dans la rue avec des artistes noirs. Bah, vous ne l'entendiez pas de cette oreille.
Bah, c'est-à-dire que moi, j'arrivais de France. Enfin, en France, on n'a jamais eu cette attitude-là. De la ségrégation totale, quoi. En fait, c'était pas dans la rue, c'était dans le club où je travaillais. Et le club où je travaillais, c'était quand même le Playboy Club. Et à l'époque, c'était le premier. Parce que, en fait, Hugh Hefner, sa base, c'était Chicago. Donc, c'est là qu'il avait son journal, c'est là où il a eu l'idée de faire un club pour célibataires ou non célibataire, mais ayant envie de garder les habitudes de célibataire. Je parle des mâles. Et qui puissent avoir les yeux remplis par des jolies créatures habillées avec le petit costume de Bonnie, c'est-à-dire les oreilles de lapin et surtout
le petit bonbon.
Et puis les... Ouais. Les balconnets, quoi. Ouais. Les balconnets des seins qui étaient vraiment suggestifs. Donc, mais sans avoir à y toucher. Ou n'ayant pas le droit d'y toucher. Car en plus, c'était ça. Elles étaient surveillées, les filles, quand elles sortaient. Moi, je suis devenue copine, évidemment, avec les filles. Et quand je suis rentrée dans cette aventure, c'est parce que j'étais là-bas avec Marceau, et puis que Marceau rentrait à Paris avec la troupe, et je voulais rester. Je voulais parfaire ma connaissance du tour de chant et du jazz et tout ça. Et donc, je suis retombée sur un chanteur que je connaissais, américain, qui avait vécu à Paris pendant un moment, et qui m'a dit, ben viens, je vais te présenter à mon agent. C'est comme ça, ça se passe quand même comme ça, hein, c'est très codifié. Et l'agent m'a dit, je peux vous caser une petite Française qui s'appelle Nicole, ça fera Nicolie, c'est pas grave, mais Croisy, on va l'oublier, c'est imprononçable pour nous. Et il m'a dit, est-ce que vous avez des robes sexy? Alors j'ai fait... Pas vraiment dans ma garde-robe, mais je peux m'arranger. C'est la mère de mon copain qui m'a passé des robes et des bijoux. Fallait des bijoux, aux oreilles et tout ça. Fallait très 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 glamour. Et il m'a dit alors ça va sûrement marcher. Je vous présente au directeur de programme du club. Et ça n'a pas raté. Il m'a fait bon bah alors on va vous mettre en bonnie.
En fait vous êtes subversive malgré vous, Nicole Croisy. C'est ça que vous me racontez.
Oui, oui, apparemment. C'est-à-dire que moi, j'aime pas les contraintes. Alors, si on me met des barrières sous prétexte que c'est politiquement, comme on dit maintenant, politiquement correct ou socialement correct ou tout ce que vous voulez, moi, j'estime que j'ai pas à subir ça.
Vous avez parlé du mime Marceau. Il est important le mime Marceau dans votre carrière. C'était en 1985, au micro de Louis Bozon. On l'écoute.
Le mime, c'est le silence, c'est la musicalité du geste, c'est aussi la musique recréée à travers les silences. Et la danse est cousine du mime, mais elle repose sur une autre pesanteur. Le mime repose sur une pesanteur que je dirais ailée. C'est un art d'attitude, c'est un peu Prométhée, enchaîné, et le danseur est un peu comme Icare, qui veut aller vers le soleil, et tombe, c'est le mime.
C'est quand même très beau. Il faut que vous posiez votre casque. C'est quand même très très beau. Et Nicole Croisy, la musicalité du geste, ce dont il parle. Qu'est-ce qui vous a appris le mime Marceau?
Ah, moi, il m'a appris énormément de choses. Je continue à utiliser ce qu'il m'a appris. Bon, il y a la technique du mime. Elle était enseignée par un de ses comédiens qui était plus capable de codifier les choses, parce que ce qu'il y avait surtout avec Marceau, c'était que c'était la poésie. Donc, quand il essayait de donner un cours, ça me faisait beaucoup rire, parce que moi, en tant que danseuse, j'avais l'habitude d'avoir les pas codifiés et tout ça. Donc, dans ma tête, je repérais les mouvements qu'il faisait. Alors, il les expliquait. Et puis, au moment de les faire, ça avait déjà changé.
Il paraît qu'il voulait pas que vous fassiez des exercices de style, comme il appelait ça.
Non, ça c'était réservé aux hommes. Mais c'est parce que l'aventure de Marceau, elle est très particulière. Il voulait être acteur. Donc, il est rentré dans le cours de Charles Dullin en même temps que Jean-Louis Barrault. Et quand on voit le film des Enfants du Paradis, on comprend. Jean-Louis Barrault, ils se sont retrouvés tous les deux, envoyés par Dulin chez Decroux, Étienne Decroux, qui était le professeur de mime. Alors, lui, codifié, c'est-à-dire l'attitude des gestes, l'illusion qu'on doit donner. Musculairement, on travaille énormément quand on fait ce travail-là.
Mais c'est dingue ce que vous dites quand même, c'était réservé aux garçons, ça veut dire quoi? Vous avez dû composer avec beaucoup...
Étienne Decroux n'aimait pas le corps des femmes, il préférait le corps des hommes.
Ah bah vive la France!
Alors, donc, il paraît que son cours, moi, évidemment, moi, je l'ai pas connu, son cours. Mais c'était avant moi. Marceau avait 10 ans de plus que moi. Donc, il faisait travailler ses acteurs et les filles, pareil, avec uniquement, comme les hindous, un linge qui cachait le sexe, donc une espèce de drap ou de serviette, ce que vous voulez, autour du sexe, et c'est tout, à poil. Tout le monde à poil, les filles aussi. Et donc, il trouvait que le corps d'un homme, ses seins et tout, c'était en trop, quoi. Donc, en plus, il axait le travail sur les hommes. Et qu'est-ce qui a fait? Non, mais moi, je crois que Marceau ne voulait pas que je touche. Il savait très bien que je pouvais les faire. Parce que quand il m'a vu travailler dans le cours, avant que je rentre dans sa troupe, j'ai passé 2 mois de cours. Et là, comme j'étais danseuse de formation, évidemment, tout ce qu'il me montrait, je le faisais.
Mais vous avez dû composer avec beaucoup de misogynie.
Oui. Oui, mais c'est pour ça que quand je dis que j'aime pas les contraintes, c'est que celle-là aussi, il a fallu la subir pendant des années. Quand on est comme moi aujourd'hui, j'aime bien dire 4x20, c'est une coquetterie. 4x20, oui, parce que je me dis, quand je suis avec des mômes de 20 ans, à part leur langage qui commence à être abscon pour moi.
Moi, j'ai pas 20 ans, avant j'ai 19 ans, Nicole, et ça serait
oui,
pas
voilà,
mal que vous
ben
notiez.
Voilà, donc voilà. On peut communiquer tous les deux. La misogynie, elle est toujours là, hein. Ouais. Attention.
Bah, celle qui n'est pas misogyne dans cette émission, j'espère que vous la connaissez, parce qu'on en a une qui n'est pas du tout misogyne.
Non. Quoi, la vôtre?
Ah bah, c'est la culture dans cette émission.
Ah bah oui,
elle est pas
non,
misogyne.
Non, mais attendez, non,
bah,
non. Mais,
c'est pas le genre. Hein.
Attendez, je me serais pas extraite de mon lit pour venir travailler avec un misogyne, quand
une
même.
Une culture misogyne non
Puis,
plus.
En plus, c'est pas du travail.
Oh bah non. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 10 octobre?
Je suis avec le notaire.
Il me dit que vous êtes deux, vous êtes trois.
J'annonce les employés, pas le patron.
Le dernier des tontons flingueurs, Valentino Valentini, est mort hier. Il avait 88 ans, belle gueule et l'allure à l'italienne. Le comédien avait tourné dans plus de 200 films, notamment avec Ettore Scola, Claude Lelouch et bien sûr Georges Lautner, habitué des seconds rôles. Valentini avait donné la réplique à tous les grands de son époque, Belmondo, Delon, Sofia Loren, Mastroianni. Il était l'un des grands derniers italiens du cinéma des années 60. Bon. Ciao, maestro. Et beau, Nicole, on est d'accord.
Ce qui est important pour moi, c'est de créer avec des matériaux qu'on peut se fournir n'importe où ou dans le monde. Et pour moi, le 20e siècle est le siècle du fer, du béton et du verre.
Tadao de l'affiche, le Centre Pompidou à Paris consacre dès aujourd'hui une grande rétrospective à l'architecte japonais Tadao Ando, maître du zen, auréolé d'un prix Pritzker en 1995. Chantre du béton lisse et des volumes géométriques, artisan autoproclamé de la joie de vivre des hommes, il se dévoile à Beaubourg à travers 50 projets phares de sa carrière, depuis la maison Azuma jusqu'à la bourse de commerce à Paris qu'il transforme en musée de la Fondation Pinault. Beauté.
Francfort, c'est le plus grand salon du livre.
Ouais. Willkommen, bienvenue à la Foire du Livre de Francfort. C'est l'événement littéraire de l'année.
Francfort, et ça repart, la Foire de Francfort, plus grande manifestation professionnelle dans le monde consacrée au livre et à l'édition, ouvre ses portes aujourd'hui sur fond de reprise. Car en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, les marchés sont à la hausse. Et puis, star incontestée de la Foire cette année, le livre audio qui attire de nouveaux lecteurs, plus jeunes, plus urbains et plus masculins. À Francfort, c'est déjà demain. Mercredi sans tabou, ciné, toutou, car dans les salles aujourd'hui, on entre dans la danse avec Girl, le premier film magistral du jeune prodige flamand Lucas Dont, qui était notre invité vendredi. On file l'amour flou avec Romane Boringer et Philippe Rebaud, qui chroniquent avec humour et tendresse leur rupture réussie. Et sinon, on dit oui à Dilili à Paris, enquête fantaisiste, historique et féministe de Michel Oslo. Go, go, go. Et Nicole Croisy, invitée de Boomerang ce matin pour une pièce de théâtre. Figurez-vous, la scène, les planches, Nicole, c'est un lieu que vous connaissez depuis toujours. Qu'est-ce qui se passe quand vous entrez sur scène, que la lumière se fait dans votre tête? Qu'est-ce qui arrive?
Je me sens à la maison maintenant.
À la maison?
Oui. Mais j'ai le trac quand même. Hein. Mais le trac que j'ai maintenant, c'est différent. C'est-à-dire que je sais que les gens, la plupart des gens, sauf la nouvelle génération qui sait pas qui c'est, pas qui est qui, mais et je rentre et je me dis, ils m'attendent au tournant quand même. Il faut que je sois à la hauteur.
Là, en l'occurrence,
donc c'est un trac. C'est un trac comme ça. Oui. Mais sinon, non. Dès qu'il y a les lumières et tout. D'ailleurs, les gens de l'équipe s'en sont rendus compte, les acteurs avec lesquels je suis, parce que je suis abominablement mauvaise pendant toutes les répétitions, parce que je suis pas sûre, je cherche et je me plante complètement. Enfin, c'est effrayant. Et au fur et à mesure, je sais que je me plante, alors qu'ils vont me détester. D'un seul coup, je fais un énorme monstre autour de moi de mal-être. Et puis la première fois où on a du public dans la salle. Ça y est, ah oui, je suis comme à la maison et d'un seul coup...
Et quand est-ce que vous avez commencé à en rêver de lumière, de planches, de frissons, d'applaudissements ?
Dès l'enfance, enfin, Dixit, ma mère, qui m'a dit que... Enfin, elle avait compris que je voulais être danseuse, parce que, comme d'ailleurs énormément d'enfants, j'en ai pas, mais je sais que ça, je sais comment ça fonctionne, je les ai regardés, et très jeune, vous mettez de la musique, ils dansent.
Alors, mais... vos premiers cours de danse, vous vous souvenez ?
Oui, alors c'était pendant que j'étais à l'école, il y avait déjà l'éducation physique. Et tout de suite ma mère a compris que j'étais archi douée pour ça et elle m'a emmenée dans un cours qui était à l'époque, c'était pas encore la danse moderne, ce qu'on appelle maintenant la danse contemporaine, c'est un style beaucoup plus libre et qui n'est pas aussi codifié. Il est codifié, mais pas dans la contrainte de la danse classique.
On est à la fin des années 40, là.
Bah oui.
Premier cours de danse.
45, la guerre. J'avais 7 ans. Je suis née en 36, donc voilà.
Mais vous auriez pu devenir petit rat, Nicole.
Oui, mais je voulais.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé?
C'était ça. Mon père n'a pas voulu.
Oui, t'es pas
mon
commode.
Père n'a pas voulu que je passe l'examen. Il n'a pas voulu que je devienne une artiste parce que c'était trop fragile. C'était pas idiot. Hein. C'était pas une. C'était une raison de m'assurer un avenir. Et un avenir, il y en a pas là-dedans parce que d'abord, c'est très difficile d'être un numéro un. Et si on n'est pas un numéro un, on n'est rien. Donc voilà, c'était ça. Alors il avait très bien compris, comme il était bilingue et qu'il travaillait avec les Américains. Dans le tourisme, American Express et tout ça. On peut citer des marques, au fait. Ah
bah, si c'est American Express, on n'est pas sûr, mais enfin, moi, après tout, pourquoi pas. Point pas, on en est.
Ça se vend pas, de toute façon.
On a dit pas de tabou, on peut tout dire.
Et donc, il s'est dit, il faut qu'on en fasse une interprète pour les grands, comme Jean Lunesco et ces trucs comme ça. Il voulait que je sois une interprète. Parce qu'il disait ça, on en aura besoin toute la vie. Donc elle sera assurée d'avoir un job.
Vous ne vouliez pas du tout être interprète.
Bah, c'est-à-dire que moi, je voulais être au théâtre.
Mais il écoutait de la musique, il allait au théâtre, il aimait les arts quand même, votre père ?
Je peux pas le savoir parce que en fait il était très peu là, donc je ne sais pas. Je pense que c'était un homme... Il s'était marié à l'âge de 43 ans. Il avait déjà vécu une vie de jeune homme, de patachon sûrement et tout ça. Donc tout ça, je l'ai jamais su. Il a jamais communiqué ça avec moi du tout.
Pour autant, vous chantiez quand vous étiez petite. Vous sentiez quoi? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on chantait?
André Claveau à l'époque.
André Claveau.
Enfin, toute petite, 6-7 ans, à la fin de la guerre, c'était André Claveau. Pendant la guerre, c'était.
Moi, je connais pas André Claveau. Ça faisait comment?
Vous connaissez pas André Claveau? Pourtant, vous auriez dû. Ouais. Il faisait partie de la grande confrérie. Hein.
Alors, il chantait quoi?
Oui. Ah, domino, domino, nanana, madada, Dominique, domino, domino. Les chansons de l'époque.
Ah, ça a l'air bien, domino, domino. Ah non, moi j'ai envie de l'entendre. Bah, en fait, ce qui s'est passé, Nicole, et il faut le dire, c'est qu'un jour vous avez découvert quelqu'un, une artiste, une voix, qui vous ont changé à jamais. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter.
Vanilla and I like vanilla. Potato.
Qu'est-ce qui se passe, Nicole Croisi, quand vous entendez la voix d'Ella Fitzgerald pour la première fois?
Ah ben, j'étais passée par le gospel avant, donc quand Ella Fitzgerald est arrivée sur les antennes, puisqu'à l'époque il y avait que la radio.
Je vais faire une confidence encore aujourd'hui avec la radio, mais ne le dites à personne.
C'est une très bonne idée. Mais moi, ce qui me paraît normale comme façon de traduire la musique, c'est la pulsation. Moi, j'ai besoin de la pulsation.
Et elle avait ça, elle, la pulsation.
Ben, ça swing, quoi. C'est ça, le swing. Quand on dit le swing, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ben, le swing, le mot swing en anglais, c'est ça balance. Bon, ça balance pas mal à Paris, voilà. Berger, il a bien compris ça aussi. Il a utilisé Michel Berger. En fait, ça balance. Mais c'est vrai que c'est ça. Or, la pulsation, ça vient de la pulsation du cœur.
Pourtant, il y a eu des périodes de doute dans votre carrière, Nicole.
Mais
ça
n'a
pas tout de suite fonctionné, c'est vrai. Vous racontez notamment comment un jour, vous êtes produite en première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Brel qui nous a quittés il y a 40 ans exactement. Et cette première partie, c'était pas une franche réussite, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, j'avais que 3 chansons. Moi, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, je peux le dire parce qu'elle n'est plus là, donc elle pourra pas se vexer. Madame Cocatrix, la femme de Bruno Cocatrix, a décidé, parce qu'elle avait été couturière, a décidé de me faire mon costume de scène.
Ah, ne me dites pas qu'elle s'est plantée dans le costume.
Costume de scène. Donc elle m'a fait une robe noire, chic, très chic, et elle m'a fait mettre un collier de perles autour du... Alors que moi, j'arrivais avec un petit tailleur Jean Chanel, c'était pas un truc de scène, un tailleur Chanel. Et j'arrivais avec rock'n'roll, quoi.
Mais vous êtes beaucoup plus punk.
Il y avait le rock'n'roll, mais je faisais beaucoup plus de jazz. Mais j'ai 3 chansons et j'ai fait un bide, quoi.
Vous étiez pas à l'aise dans votre costume?
Pas du tout. J'étais déguisée en Madame Chic. C'était ridicule.
Cela dit, j'aime bien cette tension entre Madame Chic et Madame Punk.
Bah voilà. Parce que vous êtes un peu. Maintenant, c'est Madame Trash en ce moment.
Oh, Madame Trash, n'y allons pas. Demain,
oui,
morte,
enfin, cru.
Nicole.
Madame Cru.
Madame Cru. Quelle leçon est-ce que vous tirez de vos échecs?
Ah ben, j'ai tout appris à travers les échecs. Je me suis dit, ah, alors ça marche pas. Donc, il faut que je m'y prenne autrement. À chaque fois que vous arrivez au pied d'un mur et qu'il faut le grimper, si, quand vous essayez de grimper, vous vous cassez la gueule, ben, vous vous dites comme les fourmis, je vais le contourner. Donc vous essayez de contourner l'obstacle, puis vous vous dites, en contournant, je vais bien trouver quelque chose. C'est parce qu'il n'était pas question de faire autre chose.
N'empêche,
de ma vie.
Sans tout ce que vous nous avez raconté ce matin, il n'y aurait jamais eu de téléphone, moi. Il ne pense qu'à toi, une femme avec toi, ou même qui me dira. Il n'y aurait pas eu de dabadabada. Parce que faut le rappeler quand même, Nicole, la voix dans la chanson d'un homme et une femme aux côtés de Pierre Barou, bah, c'est vous, quand même. On vous le chante encore dans la rue quand vous passez ou pas?
Mais non, dans la rue. Attendez, maintenant j'ai une vie tout à fait normale entre guillemets. C'est que la plupart des gens ne me reconnaissent plus, et c'est génial.
Menteuse.
Mais non.
Moi, je vous ai reconnu ce matin quand vous êtes arrivé.
Oui, mais enfin, vous étiez prévenu. On vous avait dit, ah, au fait, vous avez croisé sur l'émission.
C'est vrai ou pas que vous participerez à la suite que prépare Claude Lelouch?
Oui, on est dessus.
Mais vous allez faire quoi? C'est
on
un
travaille.
Scoop là.
Ah ben non, je vais chanter comme d'habitude. Lelouch est le type le plus fidèle que je connaisse dans ce métier. Et c'est quand même une des qualités les plus rares qu'on peut trouver dans le métier quand même.
Mais alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette suite-là? On veut savoir, nous.
Ah ben, c'est-à-dire que il a convaincu Jean-Louis Trintignant, qui avait annoncé dans la presse qu'il arrêterait après le film Amour. Et il l'a convaincu, et il a convaincu Anouk.
Ce qui n'est pas une mince affaire.
Qui n'est pas une mince affaire, parce qu'elle est aussi angoissée que moi par rapport à son allure, à son visage. Elle veut pas avoir l'air d'une vieille dame. Elle est pas une vieille dame.
Non, pas du tout.
Et elle est magnifique. Elle est magnifique.
Et il vous a convaincu,
elle
vous aussi.
Pas. Mais bien sûr, mais elle le croit pas.
Mais vous l'avez toujours en vous, le dabadabada?
Ah, mais moi, il avait pas besoin de me convaincre. Moi, je suis toujours partante pour Lelouch.
Ça veut dire que vous avez encore en vous le dabadabada, Nicole?
Bien sûr.
Montrez pour
mais
voir.
Mais ça sera pas dabada.
Mais montrez pour voir le dabada.
La nouvelle chanson va être très très belle.
Ah, c'est vrai?
Oui, Francis Lai a pondu deux thèmes magnifiques.
Pondu?
Bah, je dis pondu, oui.
Bon.
Enfin, oui. C'est une image, c'est parce que oui, c'est parce que ça, c'est comme la poule. On se demande comment elle peut bien, comment est-ce qu'elle peut faire un œuf, comment elle fait pour faire un œuf. Donc ça devient ça. L'inspiration musicale, c'est aussi impalpable que l'idée de concevoir un œuf qui se fabrique à l'intérieur d'une poule.
Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Boomerang avec Nicole Croisille. Et on va entendre Nicole Croisille et Pierre Barou, un homme et une femme, sur une musique
ah,
de
oui.
Francis Lai quand même. On chante ensemble, tous
oui,
les deux pendant
d'accord.
que ça marche.
Comme un eau. cœur y voit badabadab, dabadabadab, comme une chance, comme un espoir, comme nos voix, badabadab, dabadabadab, nos cœurs y croient.
C'est-à-dire qu'on est effectivement entre le dabadabada, le taratata et le poupoupidou ce matin. La blancheur, le teint de porcelaine, les yeux bleus, on l'imagine tout en boa, diadème, sautoir, porte-cigarette à déambuler, vous savez, dans un salon au parquet ciré enchaînant les sauts de chat, les arabesques, les jambes levées avec son petit pull noir ce matin, ses boucles d'oreilles grises. Parfaitement mise, Nicole Croisy, invitée de Boomerang, pour son rôle pour le moins déjanté dans Hard, actuellement au théâtre. Et jouer la comédie, c'est pas forcément ce pourquoi on vous connaît le plus, on l'a compris, pour autant vous êtes une amoureuse des mots. Les mots, ce goût pour les mots, cette passion pour le langage, pour la poésie, d'où ça vient ?
Bon, ça vient de l'enfance, ça vient de l'école, j'ai dû avoir un bon prof de littérature.
C'était lié à des textes en particulier ? À des chansons.
Je peux plus citer. J'ai fini avec la philo. Alors je me suis plongée dans les bouquins de philosophie en me disant ça me servira peut-être par la suite. C'est une erreur, mais c'est pas grave. Et donc non, je sais pas. Les mots, c'est quand même la base de la communication. L'homme a inventé les mots, alors que l'animal, c'est les sons.
Et puis on va en faire.
Parce que les gens qui croient que leur chien, parce que moi j'ai toujours eu des chiens, mais maintenant j'ai plus le temps et j'ai plus la force de me trimballer un chien partout. J'emmenais mes chiens dans les boîtes de nuit, moi.
Oh, dans les
discothèques.
C'est trop d'informations là. Vous pouvez nous dire que vous emmeniez.
Si. Dans les discothèques, j'emmenais. J'avais à un moment donné, j'avais deux.
Mais dans quelle discothèque?
Whippets.
Oui, c'est les petits livriers.
Qu'est-ce que c'est, les petits
livriers italiens là?
Pas non, les livriers. Ça c'est une miniaturisation du grand lévrier. Mais le whippet, c'est la taille intermédiaire.
D'accord.
Donc c'est un chien qui n'est pas un chien de poche. Il faut quand même le porter.
Mais vous les emmeniez où? Dans quelle boîte de nuit?
Partout, je les emmenais partout.
Au palace, au.
Oui, enfin au palace, chez Régine, partout. Alors les deux petites chiennes, elles dormaient sur les banquettes. C'est incroyable, ils ont une audition incroyable, ils sont capables de dormir dans le bruit, comme les mômes.
Tiens, en parlant d'audition et en parlant de mots, parce qu'on était quand même partis là-dessus, oui. Vous êtes venu avec un texte ce matin.
Oui, bah oui.
Ah, moi j'ai envie de l'entendre.
Bon, alors, je ne l'ai pas fait exprès, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, François Morel, il travaille ici aussi,
ah oui,
à France Inter.
Il paraît.
Oui, il paraît, ça vous embête ça.
Hein. Au contraire.
Ah là là, quelle compétition.
Bah non, je suis ravi, attendez.
Bon, alors,
Ça s'appelle Les Mots en l'air.
Oui, j'étais dans la SNCF, dans un TGV, pour ne pas le citer, et j'ai trouvé ça dans un magazine, et je suis tombée amoureuse de ce texte. Je vais en profiter. Les mots en l'air. Les mots qu'on lance vers les étoiles ne sont pas toujours des paroles en l'air. Jongler avec les mots n'est pas donné à tout le monde. Il faut faire preuve d'habileté, de souplesse, de virtuosité. Un mot qui tombe mal ou qui tombe à côté ou que vous recevez comme ça en pleine poitrine, alors que vous ne vous y attendiez pas, peut faire des dégâts. Il peut être blessant. Et je ne vous dis rien des séquelles et des traumatismes pendant des mois, des années. Combien d'estropiés du cœur après des collisions verbales ? Mais il faut jamais l'oublier, les mots sont dangereux. Ils doivent être maniés avec infiniment de précautions. Les mots qu'on envoie en l'air, ils ont besoin de souffle et d'inspiration. Il existe des mots lourds de sens, mais surtout qui pèsent des tonnes. Tournez les pages de votre quotidien, faites défiler les actualités sur votre tablette. Mais c'est fou comme les journaux sont remplis de déclarations, de proclamations, de promesses, de décrets, de divulgations, de révélations. Mais les mots en l'air, quand ils sont vifs comme des cabris, vaporeux comme des elfes, légers comme de la chantilly, sont des bouffées de fraîcheur qui longtemps voltigent comme des feuilles d'automne sous le préau de notre conscience. C'est pas beau ça? Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Il y a de la joie. J'en ai tant vu qui s'en allèrent, ils ne demandaient que du feu. Je chante un baiser. Dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques jours, enfin tout de suite, là, dans quelques instants, nous aurons oublié les mots qui aujourd'hui font les importants, qui se poussent du col, qui jouent les gros bras. Et longtemps, nous serons reconnaissants à Paul Verlaine, à Henri Calais, à Georges Brassens, à Charles Trenet, à Louis Aragon, à Alain Souchon, à tant d'autres, d'être de si fidèles compagnons qui ont su... Oh là, je fais une liaison terrible, là, je la refais celle-là. D'être de si fidèles compagnons qui ont su suspendre en apesanteur les mots de la mémoire et de la consolation.
C'est vrai que c'est très beau.
C'est beau, c'est magnifique, en plus c'est léger, c'est fin. Et puis ça dit des choses importantes, sous-entendu, arrêtez de lire les journaux et tout ça. Même c'est si lourd.
On peut tout
ça
dire.
Ça pèse lourd.
On peut tout dire. Ça, on l'a compris.
Faut tout
tous
dire.
Faut tout dire. Merci infiniment, Nicole, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Hard, mise en scène par Nicolas Briançon, avec Charlie Dupont, Claire Borotra, Stéphane Wojcovic, François Vincent Tellier, entre autres, est actuellement au théâtre de la Renaissance.
Isabelle Vitari, vous l'avez pas dit.
Ah, c'est vrai. J'ai eu tort.
Mais oui, faut pas en oublier.
Et bientôt dans toute la France, Arbe.
Il y a Dani et Sarah, dont j'ai pas repéré les noms de famille, qui sont nos deux ardeuses magnifiques.
Ouais.
Et puis il y a François.
Vincent Tellier.
Marielle.
Ah.
Il a le nom de Marielle.
Ouais. Bon, ça, vous adorez
voilà.
Ça.
Hein?